Vous allez en avoir besoin, madame,
ok ? L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez de médias, d'aide,
pour vous qui récupérez. Et encore, ils ont compris, ils fonctionnent
bien. Entre les parents de ces
policiers-là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on sort en libre.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Tapage, une émission sur les violences judiciaires sur Canal Sud 92.2.
Alors aujourd'hui, une émission un peu particulière, on va vous parler acronyme CRPC. CRPC pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Qu'on pourrait aussi traduire en langage courant par plaidé coupable.
Oui. C'est ça. Le plaidé coupable, alors du coup, on en a tous un peu une idée en tête parce que, comme bien souvent, on est informé un peu de la procédure criminelle par les séries américaines.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires.
Mythique et légendaire, tadam. Et oui, on a tous vu ces scènes de négociations entre le procureur de la République les personnes poursuivies. J'abandonne telle charge si tu reconnais tel fait, je te propose telle peine, et hop, on fait les papiers, et comme ça, on va pas devant un tribunal. Alors, on a une procédure qui s'apparente peut-être un petit peu à ça, c'est la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Mais donc, quelle est la différence entre ces CRPC et une audience normale ?
Alors, il y a un point commun, c'est que comme une audience normale, on est convoqué plusieurs mois après la garde à vue. Mais il y a une différence qui est fondamentale, parce qu'une audience normale, on voit à peu près comment ça se passe. L'audience, il y a un débat contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a dans la salle, en présence, toutes les parties, à la fois l'accusation, à savoir le parquet ou le procureur, c'est synonyme, et la défense, l'avocat et son client, le prévenu, et neutre, en tout cas soi-disant, le ou la juge, au centre de l'estrade. Et du coup, tout ce petit monde-là discute ensemble dans un ordre prédéfini. À la fin, le juge se retire et annonce la peine, soit immédiatement après l'audience, soit quelques temps plus tard. La CRPC, donc comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est vraiment très très différent. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que le prévenu accompagné de son avocat va se retrouver dans le bureau du procureur pour un très court moment, hein, qui va durer quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, rarement plus, j'imagine, va rapidement parcourir le dossier et le procureur va proposer une peine au prévenu. Prévenu qui peut effectivement refuser cette peine, auquel cas il comparaîtra dans une audience normale. Mais s'il l'accepte, il comparaîtra l'après-midi même dans ce qu'on appelle une audience d'homologation. Donc là, ce coup-ci, devant un magistrat du siège, un juge, qui se contentera de valider la peine proposée par le juge.
On va revenir un petit peu en arrière parce que ce qui distingue cette CRPC, cette procédure-là des autres, c'est qu'au préalable, la personne doit avoir reconnu les faits. Ce qui fait qu'il n'y a, oui, pas de, il y a pas de débat sur la culpabilité.
Et c'est d'ailleurs compris dans le nom, sur oui, comparution, sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est vrai que c'est un critère nécessaire.
Donc, en fait, le procureur de la République, quand il est informé des gardes à vue en cours par l'officier de police judiciaire, il va estimer que si les faits sont reconnus et que, c'est pas si grave et que la personne a des garanties de représentation, elle va pas prendre la fuite, elle a pas beaucoup d'antécédents judiciaires, elle risque de pas recommettre les faits, on la reconvoque plusieurs mois plus tard, et en fait, on se dispense du coup d'un débat sur la culpabilité, mais aussi sur la régularité de la procédure. Imaginons que les policiers soient allés dans un endroit alors qu'ils n'avaient pas le droit. Imaginons qu'ils n'aient pas notifié, je ne sais pas, pendant la garde à vue, le droit d'avoir un avocat, le droit au silence, etc. Dans la mesure où la personne a reconnu les faits, le procureur, il peut dire « Bon, on ne va pas prendre de risques trop et on va faire un plaidé coupable. »
Il y a pourtant un avocat. Quand on accepte de venir à une procédure de CRPC, l'avocat est présent.
Oui. Alors, il est présent, il est même obligatoire, en réalité. Et normalement, il est allé consulter le dossier avant, et normalement, s'il y a notamment une irrégularité de procédure, il doit conseiller à la personne qui défend de ne pas se prêter au jeu de la CRPC.
Et il y a quand même un certain nombre de CRPC qui sont refusés. Il y a environ, là en 2022, il y avait environ 115 000 dossiers envoyés en CRPC, et à la fin, il n'y a que 90 000 condamnation. Ça veut dire qu'entre les deux... Alors, il n'y a pas que des gens qui ont refusé la CRPC, il y a ceux qui ne se sont pas présentés à l'audience, par exemple.
Et justement, c'est pour quel type d'infraction? Qui c'est qu'on envoie en CRPC?
Alors, en théorie, ça couvre à peu de choses près tout ce qu'on appelle le champ de la correctionnelle, c'est-à-dire toutes les infractions qui encourent jusqu'à 10 ans de prison. Il y a un certain nombre d'exceptions, parce qu'on voit bien que la CRPC, comment c'est fait, ça n'est pas un espace très favorable aux victimes. Donc, le législateur s'est dit, en fait, quand il y a agression sexuelle, quand il y a violence sexuelle, les affaires ne passeront pas en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Alors, pourquoi c'est pas favorable pour les victimes ?
Mais par exemple, parce que, comme on l'a dit, les victimes ne sont pas dans le bureau du procureur avec les prévenus, avec le prévenu et avec son conseil, parce que l'audience après d'homologation dure de 2 à 10 minutes, ça n'est pas un espace de parole, ça n'est pas un espace de dialogue du tout, ça n'est pas un espace de débat. Donc c'est encore plus rapide qu'une comparution immédiate, pourtant procédure accélérée. Comme on l'a dit tout à l'heure, le moment chez le procureur dure quelques minutes, peut-être 5, peut-être 10. L'audience d'homologation dure régulièrement 2 minutes, 5 minutes au plus. Une fois, j'ai vu un quart d'heure, mais c'était vraiment une exception parce qu'il y avait plusieurs prévenus.
Donc on récapitule, à Toulouse le matin, il y a négociation avec le procureur de la République sur une peine. Et si elle est acceptée, donc tu parles d'une audience d'homologation, c'est ça, qui a lieu l'après-midi ?
Exactement, il y a une audience d'homologation qui a lieu l'après-midi, qui est publique, qui commence à 14h à Toulouse. Il y a des audiences de CRPC deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, ça commence à 14h, ça dure toute une partie de l'après-midi. Voilà, faut savoir que ça dure, c'est extrêmement rapide, comme je disais, hein, peut y avoir plus d'une quarantaine de dossiers qui sont traités en une après-midi, et du coup, avec des temps de traitement qui vont de 2 minutes, top chrono, à parfois 10 minutes, un quart d'heure, plus rarement.
C'est-à-dire, du coup, ça consiste en quoi, cette audience ?
Ça se passe toujours de la même manière. Je pense que la première chose, c'est que là, en l'occurrence, la juge s'assurait de l'état civil, de l'identité de la personne. Vous êtes bien monsieur machin, madame machine, vous êtes de telle nationalité, vous habitez ici, vous comparaissez pour telle infraction. Est-ce que vous reconnaissez toujours cette infraction ? Parce que je pense que ça fait partie des choses qu'elle doit faire, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours reconnaissance des faits. Si oui, le procureur ce matin vous a proposé telle peine. Est-ce que vous avez accepté ce matin ? Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Oui, non, et si c'est oui, ça y est, c'est fini en fait. Et l'avocat n'a pas pris la parole, et là en général, le temps de signer les papiers, de tamponner toutes les feuilles prend plus de temps que l'exposé de l'affaire elle-même.
Et donc c'est une audience publique ?
C'est une audience publique, après c'est très peu audible parce qu'il y a énormément de monde dans la salle, en vérité, très peu de public. Il y a à peu près exclusivement des avocats, avocates et leurs clients et clientes qui sont là. Et avec 43 dossiers dans l'après-midi, on imagine bien, ils sont pas forcément tous là, mais il y en a une bonne moitié qui sont là, donc il y a énormément de gens. Et chacun discute. Tous les prévenus discutent avec leurs conseils. Les avocats discutent entre eux, comme d'habitude. Et c'est très bruyant, sachant que la juge, elle, est sur son estrade et c'est la seule à être sonorisée, elle a un micro, donc c'est la seule qu'on entend. Le prévenu et son avocat sont là devant l'estrade, mais depuis les bancs du public, moi j'ai jamais entendu en tout cas ce qu'il disait. Après c'est peut-être spécifique à la salle de Toulouse, il y a peut-être des salles où tout le monde dispose d'un micro, où du coup tout est audible.
Et du coup, il n'y a pas de procureur de la République ?
Et non, il n'y a pas de procureur de la République. Lui, il n'était là que le matin avec le prévenu pour lui proposer donc la peine.
Donc la juge récapitule en fait la peine proposée par le procureur et valide ou ne valide pas la peine du procureur.
Alors moi, de ce que j'en ai vu, elle a toujours validé, non sans pester, à l'occasion. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça, pour le coup, c'était la seule qu'on entendait, mais on l'a entendu très distinctement dire à un moment, tiens, ça n'est pas la peine que je vous aurais donnée. Ou alors une autre fois, elle n'était pas très contente parce qu'il y avait 3 prévenus sur une même affaire qui n'avaient pas eu les mêmes propositions de peine et elle ne comprenait pas la différence. La différence ne correspondait pas ni à leur casier judiciaire, ni à la gravité des faits qu'on leur reprochait. Donc elle n'était pas très contente de ça. Et en fait, moi, je suis restée peut-être 1h30 dans cette audience. En 1h30, à plusieurs reprises, elle a répété des trucs du genre... moi, je peux juste homologuer ou pas. Je ne peux pas apporter de changement. Je ne peux pas vous proposer autre chose que ça. Donc, je spécule, oui et non. Je pense que c'est aussi de notoriété publique. Mais je pense que les magistrats du siège, les juges, donc, peuvent être à l'occasion frustrés et un peu mécontents de la manière dont ça se passe.
Parce qu'ils sont dépossédés
ou... c'est quand même une dépossession d'une partie de leur travail.
Donc, pour récapituler... On est convoqué en CRPC, on voit le procureur qui nous propose une peine. On a reconnu les faits, donc on a plaidé coupable. On a reconnu les faits, il nous propose une peine, on dit OK. Et l'après-midi, on passe devant cette juge qui homologue ou pas.
Qui tamponne. Ouais.
Mais qui, d'après ce que tu dis, tamponne souvent. Ouais. Et voilà. Et si on change d'avis entre-temps, qu'est-ce qui se passe si jamais on...
Et même si le matin, on refuse la peine, parce qu'après tout...
Eh bien, immédiatement, en tout cas à Toulouse et vraisemblablement partout, immédiatement après l'audience de CRPC, la même journée, et d'ailleurs avec la même juge, va y avoir l'audience correctionnelle normale. Donc tous les gens qui auront refusé le matin vont passer en correctionnelle normale l'après-midi même. Ce qui est, par ailleurs, un genre de bizarrerie, parce qu'on pourrait imaginer que refusant la CRPC le matin même, on serait reconvoqué quelques mois plus tard. Parce que la bizarrerie. Faut s'imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on sort du commissariat, on est convoqué à 3 choses en même temps au tribunal le même jour. On est convoqué chez le procureur le matin, quelques mois plus tard. On est convoqué à l'audience d'homologation l'après-midi, au cas où on accepte. Et on est convoqué aussi à l'audience de correctionnel normal le jour même, un peu plus tard dans la journée, au cas où on refuse.
Ouais, d'accord. Du coup, cette proposition de peine qui est faite le matin par le procureur de la République, c'est censé être moins sévère dans l'idée. C'est censé être « accepte ma proposition de peine, car si tu te fais juger par un tribunal normal, entre guillemets, ça sera plus sévère. »
Allez, CRPC, de toute façon, ça a toutes les allures du chantage. Dans pas mal de moments, bien sûr que c'est un peu le deal théoriquement de si tu refuses, ce sera pire.
Mais du coup, le tribunal, si la personne elle refuse, le tribunal il saura qu'elle a refusé une peine qui a été proposée par le procureur de la République.
Et puis par ailleurs, l'audience correctionnelle normale, du coup, après les CRPC le jour même, le procureur, pas forcément le même, mais un procureur, va revenir à cette audience. Et on peut supposer, tout le monde supposera en tout cas dans la salle, que la peine qu'il va demander à cette audience est un peu plus élevée que la peine qu'il aura proposée le matin même. Et c'est un jeu de dupes, parce que personne ne l'ignore, la juge ne l'ignore pas, personne ne l'ignore dans la salle.
Ouais, donc... C'est quand même une procédure, on voit l'idée, tu disais, c'est fait pour un peu fluidifier les stocks, parce qu'au final, au lieu de 3 juges, il n'y en a qu'un, il n'y a pas de procureur qui est là l'après-midi, l'audience d'homologation par dossier, c'est quoi? C'est entre 2 et 5 minutes, on évacue 43 dossiers en une après-midi, donc ça a un avantage. Pourquoi les prévenus accepteraient? Ben, l'idée, c'est ça. C'est, je vous propose une peine, vous prendrez plus si vous passez au tribunal correctionnel. Et on voit bien le grand agacement que c'est susceptible de générer. Un prévenu qui refuse la peine qui lui est proposée, c'est qu'il a refusé quelque part une mesure de faveur, une mesure clémente, et il vient embêter un tribunal. Il peut légitimement penser que ça va être de nature à agacer le magistrat. T'es pas content, tu voulais pas 6 mois, t'en auras 8. Bon,
Par ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où ils ont créé la procédure en 2004, un des arguments avancés, c'est que c'était aussi une manière de moderniser la justice. Moderniser la justice parce que la société, comme chacun sait, était affamée d'implications, de négociations directes, de participation. Du coup, on était là, en fait, il est normal de faire participer les prévenus à l'élaboration de leur propre peine, c'est la démocratie.
La justice participative.
Oui, c'est la justice participative.
Savoir qu'on est après Ségolène Royal, qui a marqué considérablement les esprits, et non, c'est avant, bon.
Et là où il trouvait ça bien aussi, c'est qu'il disait, ben, c'est top, parce que là, le prévenu, on aura discuté avec le parquet directement, c'est-à-dire qu'en termes d'acceptabilité, comme ils disent, de la peine, c'est hyper bien. Il aura mieux compris, il aura participé à élaborer sa propre peine, ça veut dire qu'il le prendra mieux. Voilà, maintenant ils ne disent plus ces choses-là, je pense que c'est...
Et d'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé, ça, les peines, c'est quoi les peines?
Oui.
Les peines, la peine principale qui est donnée actuellement, c'est du sursis intégral.
Mais y a quand même une évolution, quoi, depuis la loi de 2004 sur les peines, notamment. Est-ce qu'il est possible de faire?
Là, aujourd'hui, bah, pas mal de choses sont possibles, pas tout à fait tout. Par exemple, en ce qui concerne les peines de prison ferme, c'est limité à 3 ans de prison. Alors là, c'est pas exactement rien, cela dit, hein, pour une procédure qui se passe en 10 minutes, les deux parties comprises. Ça a été augmenté, le plafond a été relevé, comme ils font souvent, hein, il était relevé, il me semble, en 2011, parce qu'avant, c'était 1 an de prison maximum. Il y a une deuxième limitation qui existe, c'est que la peine ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue. Mais ça, c'est très théorique quand même, parce que les peines atteignent très rarement la moitié des peines encourues, donc je pense que ça n'a juste aucun effet spécifique.
Oh, mais c'est comme d'habitude, en fait, le législateur, quand il intervient pour... mettre une nouvelle procédure qui, quand même, il faut... maintenant, ça fait 20 ans, hein, cette année, qui est devenu un outil de régulation de la justice répressive assez commun. Quand il intervient, c'est un peu brutal. C'est-à-dire que la personne, elle a quasi pas de procès, en fait. Parce que ce que tu disais, Marie, de ton observation, c'est ça aussi, c'est que, alors, ordinairement, hein, on le dit souvent ici, et notamment en comparution immédiate, les prévenus ont très peu la parole. Mais là, l'audience d'homologation, est-ce que vous reconnaissez toujours les faits? Oui. Est-ce que vous acceptez toujours la peine qui vous est proposée? Oui. C'est
et
tout.
Puis, en fait, tout se passe chez le procureur, à un endroit qui n'est pas devant les yeux du public, et on va pas se voiler la face. On n'imagine pas une seule seconde que le prévenu, même accompagné d'une avocat, face à un procureur, arrive à négocier âprement sa propre peine. Il y a aucune chance, c'est pas possible.
En fait, la personne, elle est dépossédée de procès. Alors, c'est pas qu'il faille glorifier le procès mais je veux dire, du strict point de vue des principes, ces explications, encore plus que d'habitude, elles n'ont pas à voir vraiment au chapitre, quoi. C'est-à-dire qu'on va se ficher totalement du contexte, des raisons, etc. Là, pour le coup, c'est très frontal. On n'est pas là pour ça. Le procureur a une proposition de peine. Alors, il peut peut-être, ça dépend des magistrats, varier un mois de moins, etc. Mais c'est vraiment pas de procès pour la personne. Alors, au début, quand ça sort, on dit, ben oui, mais rassurez-vous, il y aura un avocat obligatoire, ce que tu disais, Marine. Et rassurez-vous, on ne pourra pas prononcer plus d'un an de prison. Et puis, rassurez-vous, on ne pourra pas poursuivre certains délits.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait une autre limitation dont on n'a pas parlé, c'est qu'à la création en 2004, les seules choses qui pouvaient passer en CRPC, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'était les délits qui encouraient 5 ans de prison. Et que ça aussi, c'est un plafond qu'a sauté récemment. Dire que maintenant, des choses de plus en plus graves peuvent passer, pour le dire comme ça, qui encourent de plus en plus d'années de prison, que le plafond aussi qui limitait le nombre d'années de prison qu'on pouvait donner faire à quelqu'un a lui aussi été multiplié par 3. Et de plus en plus, même si aujourd'hui, la prison n'est pas du tout la peine principale En CRPC, très loin de là, comme je disais tout à l'heure, c'est le, enfin la prison ferme avec mandat de dépôt n'est pas du tout la peine la plus utilisée. Elle tend néanmoins à augmenter parce que le législateur ne cesse de rendre ça plus facile, plus possible, plus utilisable.
Oui, donc tu disais que c'était pas du tout possible au début, maintenant ça l'est un petit peu plus et ça tend à augmenter, donc on peut peut-être spéculer et imaginer que dans quelques années, ça le sera de plus en plus, et que donc, on, comme tu le disais, on arrive à une justice où il n'y a pas de procès, où on peut pas vraiment se défendre et expliquer, à être condamné finalement, à pouvoir être condamné à de la prison avec mandat de dépôt.
Et du coup, on a des chiffres hein, un petit peu sur là, après 20 ans de CRPC.
Oui, on a des chiffres sur le recours à la CRPC. Là, en 2022, il y a eu 90 000 ordonnances de CRPC, c'est-à-dire décisions qui ont été prises. Et ça augmente très régulièrement, ça continue d'augmenter. Par ailleurs, on sait que les peines tendent à s'alourdir et que la prison prend aussi plus de place aujourd'hui qu'elle n'en prenait une dizaine d'années. Même si, comme je disais tout à l'heure, peine de référence, c'est le sursis intégral. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de tiges, de jours amende, un peu de bracelet. Donc, et le bracelet, c'est pas...
C'est de la prison.
C'est de la prison.
Peut-être on fait une pause musicale ?
Thank you.
Et on vient d'écouter Plea Bargain, donc plaidé coupable, du groupe Beat the Devil.
Yeah.
Vous êtes toujours à l'écoute de Tapage sur Canal Sud 92.2 et aujourd'hui on parle des CRPC, les comparutions de reconnaissance préalable de culpabilité, ou autrement dit le plaidé coupable à la française. C'est-à-dire que dans les procédures de CRPC, comme on l'expliquait tout à l'heure, vous êtes convoqué devant un procureur le matin avec votre avocat qui va vous négocier une peine, quoi, que vous acceptez ou non. Et si vous acceptez, vous passez l'après-midi devant un juge pour une procédure express de l'homologation de cette peine. Et donc, ce juge va homologuer ou non la peine. Et la plupart du temps, il homologue, comme nous le disait Marie. Mais est-ce qu'il l'homologue tout le temps ?
Oui, alors il peut refuser d'homologuer s'il trouve que la peine n'est pas assez sévère ou qu'elle n'est pas adaptée aux faits.
T'as des exemples en tête ?
Ouais, alors, mais il y a, par exemple, à Montauban, un magistrat refusait par principe le passage en CRPC de faits de violence conjugale, par exemple. Ça peut être certains types d'infractions, et ça, c'est en général négocié en amont avec les services du procureur de la République. Donc, c'est pour ça que normalement, il y a très peu de refus d'homologation, parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont un petit peu vues en amont. Alors, il y a quelques autres refus d'homologation qui attirent l'attention. Un dénommé Bolloré, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était mis en cause pour abus de confiance, abus de bien social, corruption active. Mais il avait accepté une peine de 375 000 euros d'amende. Et que le parquet national financier donc avait proposé, tout le monde était d'accord. Et là, il y a quand même un juge qui a dit non. En fait, ça porte sur des choses graves, ça porte sur énormément d'argent, de préjudice. Donc, je vais refuser d'homologuer cette peine. Mais ça fait penser un petit peu à la frustration un peu que décrivait Marie tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment certains juges qui se sentent dépossédés de ça. Et parce que si on peut la critiquer, on doit la critiquer, cette mesure de CRPC, pourquoi ? Parce qu'elle est faite pour des raisons budgétaires, parce qu'elle bafoue quand même les droits des personnes poursuivies, elle les prive d'un procès, mais elle peut avoir des avantages. Et j'imagine que le dénommé Bolloré n'y a vu que des avantages à pouvoir passer une procédure de CRPC.
À esquiver le procès public.
Et oui, c'est-à-dire
la présence des médias,
exactement.
Le débat contradictoire.
On a une audience d'homologation qui dure 2 à 3 minutes, il n'y a jamais aucun journaliste dans ces audiences-là, et on n'a pas un résumé de toute l'affaire devant une salle qui est remplie de curieux ou de journalistes, etc. etc. Donc cette alternative au procès, ça peut des fois servir, effectivement.
Et on l'a dit, donc, le CRPC, c'est une justice qui va plus vite. Et moi, ça me fait penser aussi aux comparutions immédiates. Mais alors, qu'est-ce qui différencie ? Enfin, pourquoi les CRPC et pas une comparution immédiate ?
Bah alors là, où on peut que te rejoindre, hein, c'est que les comparutions immédiates, qui sont devenues un instrument vraiment de la politique répressive très communément admis et très ordinaire, à Toulouse, c'est tous les jours. Ben c'était pas le cas il y a 20 ans. C'est-à-dire que la loi qui instaure les CRPC, comparution sur reconnaissance de préalable de culpabilité, c'est la loi dite Perben 2 de 2004. La loi dite Perben 1 de 2002, elle avait généralisé déjà la possibilité de recours à la comparution immédiate. Donc on est vraiment pris dans le même mouvement à cette époque-là, qui est d'accélérer la justice et de vider un petit peu les stocks. Seulement, ce qui différenciait quand même les deux procédures, c'est que bon, on n'avait pas le même type de profil qui s'y retrouvait. Parce que ce qu'on sait, c'est que la comparution immédiate, il passe un certain type de prévenu, un certain type plutôt de population, casier judiciaire, pas de garantie de représentation, c'est-à-dire dans une grande précarité sociale, ceux dont on estime qu'ils se présenteront pas si on les convoque à l'audience. Donc on les garde comme ça, retenus par des policiers pour les faire passer le plus vite possible au tribunal. Et ça c'était pas le cas en CRPC.
Mais ils ont inventé récemment une chose qui mixe en fait la CRPC et les comparutions immédiates. C'est ce qu'on appelle la CRPC déferment. C'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, la CRPC, on y est convoqué quelques mois plus tard, après la garde à vue, et on est laissé libre habituellement hein, entre la garde à vue et la CRPC. Là, la CRPC déferment, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'à la sortie de la garde à vue, comme pour la comparution immédiate, l'officier de police judiciaire passe un coup de fil au parquet. Le parquet qui dit « bon ben, ne le relâchez pas, envoyez-le-moi tout de suite ». Et du coup, le matin même, il est présenté du coup au procureur de la République qui va lui dire « bon ben, voilà monsieur, où vous passez en CRPC cet après-midi ? Ou bien c'est comparution immédiate cet après-midi ? » Et laissez-moi vous dire que si c'est comparution immédiate, les peines seront pires, parce qu'on sait que les comparutions immédiates, c'est beaucoup de prison avec mandat de dépôt. Du coup, là, on parlait déjà de chantage pour les CRPC ordinaires. Là, on est quand même à un niveau de chantage encore bien plus important, avec de la prison, avec du mandat de dépôt. Quoi.
Et la différence, c'est que là, on parle de prison avec mandat de dépôt. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le prévenu qui n'a pas vraiment d'audience, qui ne peut pas vraiment s'expliquer, etc., bah là, ça sera la même chose, mais avec derrière une incarcération le soir même.
Et puis en plus, du coup, c'est directement après la garde à vue, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, donc en fait, la personne a passé 24 heures
ou 48
ou peu importe en garde à vue, donc doit être quand même passablement fatiguée, et hop, arrive sans aucune forme de procès. Et accepte ou non la peine.
Exactement.
Que...
Bah ouais,
avec un avocat qu'elle ne connaît pas, j'imagine. Enfin,
oui. Ouais,
D'accord.
Potentiellement un avocat qu'il ne connaît pas, parce que ouais. C'est peut-être parce qu'il n'en connaît pas et qu'il a fait appel à la permanence.
Et puis un avocat qui doit de toute façon réagir très vite.
Et là, les choses sont très claires. Hein. C'est un procureur qui dit, écoutez monsieur, c'est 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt ou c'est comparution immédiate cet après-midi. Je serai vous, j'accepterai. Donc là, on a une pression sur le consentement qui...
C'est très difficile de refuser ce genre de choses, ça fait très peur.
Et c'est CRPC déferment, donc tu disais que c'était quelque chose de relativement nouveau ?
À ma connaissance, ça date de 2022. Mais on voit par ailleurs bien la logique de la chose, c'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de désengorger la comparution immédiate normale. Voilà, avant, on désengorgeait la correctionnelle. Maintenant, on désengorge la comparution immédiate.
C'est une espèce de super comparution immédiate sans procès, en fait.
Exactement.
C'est une CRPC immédiate.
Ouais.
Alors, ça a quand même déclenché un peu de réaction. Là, on le disait tout à l'heure, un peu de réaction des avocats, notamment. Donc, parce qu'il faut savoir quand même que les avocats organisés en barreau ont quand même une possibilité de faire pression sur la justice quand ils daignent l'utiliser. Donc, le barreau de Créteil, par exemple, a refusé de fournir des avocats commis d'office pour les CRPC déferment quand elles impliquaient de la prison avec mandat de dépôt. Expliquant que quand il y avait quand même une peine de prison à la clé, là, une incarcération le jour même, sans possibilité d'aménagement immédiate, ça valait quand même un débat contradictoire et une véritable audience.
Et le fait est que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'avocat il est obligatoire en CRPC, c'est une manière pour les barreaux de dire ben, « nous, on fait échec, en fait, si vous voulez, à mesure de CRPC, dans la mesure où vous n'aurez pas d'avocat pour l'affaire. » Alors, c'est des rapports de force, parce que malheureusement, ils peuvent passer, ils peuvent très bien essayer de passer outre, mais voilà, on est dans la construction d'un rapport de force qui se passe. Alors, il y a Créteil, mais je crois qu'il y en a d'autres, barreaux qui refusent. En tout cas, c'est vraiment très, très inquiétant. On a vraiment assisté ces 20 dernières années à un développement majeur de la comparution immédiate, une explosion des CRPC pour arriver à 90 000, comme on disait tout à l'heure. Et là, parce qu'on considère finalement quoi ? Que la comparution immédiate s'est déjà accordée trop de temps. C'est que ces 20 minutes ou ces 30 minutes de procès, c'est déjà beaucoup trop. Ça mobilise 3 juges. Bon, alors que franchement... non, mais c'est vraiment l'impression que ça fait. Et du coup, c'est plus de procès, plus d'audience publique. Alors, parce que Marie disait tout à l'heure, l'audience d'homologation, elle est publique et c'est effectivement le cas. Mais il faut savoir qu'à Toulouse, par exemple, dans le cadre d'un déferment CRPC, votre audience de l'homologation, elle n'aura pas lieu dans une salle d'audience. qui sont celles des pas perdus. Elle aura lieu dans le bureau d'un juge au troisième étage. Et je veux dire, on n'a jamais vu de public venir assister à cela.
Ça n'est pas annoncé, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment y accéder. Moi, je serais bien incapable d'y aller si je voulais, quoi.
Donc pour le moment, on a du mal à avoir des chiffres. Marie le disait, c'est une mise en œuvre relativement récente. Ça avait commencé dans certains tribunaux avant même la loi ou la circulaire. C'est souvent en procédure pénale, c'est la pratique judiciaire qui va amener les changements. Sachant que pour les procureurs, c'est vraiment tout bénéfice, hein, parce que ils ont des statistiques, ils ont un taux de réponse pénale, il faut vraiment évacuer le plus de dossiers par semaine, il y a des remontées de ces chiffres-là. Pour le moment, on ne sait pas encore précisément, numériquement, combien ça représente et de dossiers et d'incarcération. Ce qu'il y a de sûr, en revanche, c'est qu'il y a beaucoup plus, évidemment, d'incarcération en CRPC déferment qu'en CRPC dite classique, quoi.
En tout cas, dans les chiffres que produit tous les mois et tous les ans le ministère de la Justice, il n'y a pas de distinction qui est faite entre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la CRPC déferment. Donc on peut pas.
Donc on peut pas quantifier, quoi.
Pas quantifier. Ces chiffres existent peut-être quelque part, mais pas que je les ai trouvés, pas très accessibles s'ils existent, quoi.
Non, c'est vraiment une nouvelle manière de réprimer qui est à surveiller, surveiller, mais en fait on peut pas vraiment le faire parce que c'est pas comme les comparutions immédiates ou la sellette où on peut aller observer, etc. Là vraiment c'est une justice très répressive mais qui va se dérouler à l'abri, quoi.
À l'abri des regards. C'est à surveiller, effectivement. Comme tu dis, on ne peut pas le surveiller, mais peut-être que d'en parler déjà, d'être au courant, parce que la plupart des gens ne savent pas que ça existe, en fait.
Oui, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est à surveiller d'assez près, et notamment les taux d'incarcération qui finiront bien par augmenter.
Oui, à ce propos d'ailleurs, un nouveau record a été battu avec plus de 76 000 personnes détenues dans les prisons de France.
C'est malheureusement pas avec des procédures comme les CRPC déferment que ce taux va baisser, quoi.
Pour la fin de notre émission, on va passer à autre chose. Et Jonathan a pas mal insisté pour
oui,
faire
j'ai
passer
un,
quelque chose.
Un petit son à vous faire écouter.
On y va.
C'est quoi ?
Mais alors, qu'est-ce donc que ce son ? Est-ce que c'est un générique de série télé policière américaine ?
Des années 90.
Ça pourrait. Mais il y a des petites notes à la fin, normalement, qui doivent vous mettre un peu sur
On a entendu quelques notes de la Marseillaise.
Ah, ouais. Oui. Alors, c'est une création du service communication de la préfecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je crois, qui annonce très fièrement sur les réseaux sociaux le lancement d'une opération PlaceNet XXL. Voilà, on vous en a parlé il y a déjà quelques mois maintenant, hein, ça ne nous rajeunit pas. La guerre à la drogue en France, saison 2. Alors, c'est depuis 6 mois maintenant que Gérald Darmanin est très content d'annoncer partout faire des opérations PlaceNet. Alors les opérations PlaceNet, ça évoque immédiatement la rhétorique du Karcher de Sarkozy. Il s'agit d'aller nettoyer les quartiers, les nettoyer de quoi ? Des dealers, c'est toujours pareil, qu'ils soient consommateurs ou trafiquants, la guerre à la drogue en France n'aura pas de répit et Darmanin ne dormira pas tant qu'il subsistera un point de deal. Alors, ça rebondit quand même dans l'actualité parce que il y a un contexte à cela, il y a quelques mois, Non, pardon, il y a quelques semaines, le 6 mars, je crois, peu importe, il y avait une commission d'enquête du Sénat qui a entendu plusieurs magistrats de Marseille sur comment est traitée la lutte contre les produits stupéfiants, etc. Alors ça a provoqué un petit peu des remous, il y a même une juge d'instruction qui a déclaré que la guerre à la drogue était perdue. Alors, à ceux qui pensaient qu'on aurait pu s'interroger sur sa pertinence, c'est pas du tout ça qui a été retenu pendant les auditions, c'est que, en fait, la justice manque de moyens et qu'il faudrait pouvoir mieux faire la guerre à la drogue avec, en fait, des armes plus importantes. Donc, pêle-mêle ont été dénoncés les avocats qui soulevaient des nullités de procédure, tout ça pour ralentir les dossiers d'instruction et libérer leurs clients, c'est quand même odieux. Donc envisager des réformes comme ça qui pourraient... qu'on évite comme ça de pouvoir dire qu'il y a une procédure qui est irrégulière.
Spécialement pour les affaires de drogue.
Parce que ça, c'est... Alors... Je pense qu'ils aimeraient pour toutes les affaires, au final, parce que s'ils entravent les affaires de drogue, pourquoi les laisser entraver d'autres affaires ? Donc voilà, ça a été, ça a pas provoqué de remous, ça a plutôt suscité une forme d'approbation de la part des gens qui ont entendu ces propos au Sénat. Donc il y avait un juge d'instruction et il y avait le procureur de la République de Marseille aussi en chef. Qui lui avait d'autres propositions. On va vous faire un petit peu écouter une de ces propositions, peut-être les plus effrayantes.
Enfin, nous, mais là c'est compliqué parce que c'est sur plusieurs années, nous estimons, et la plupart des praticiens, que le régime pénitentiaire de la détention provisoire appliqué à ce type de public est inadapté. Il faudrait qu'on ait des prisons de haute sécurité comme ça existe dans d'autres pays, aux États-Unis, en Italie. Ça aurait également des conséquences induites, c'est-à-dire le ministre de la Justice, moi je reprends sa formule, Monsieur Dupond-Moretti, elle est très forte, il dit ben, pour ces gens-là, la prison, c'est la même chose qu'à l'extérieur sans les femmes. C'est la seule un petit peu limite qui est apportée. Donc il faudrait un régime pénitentiaire spécifique pour pas les mêler à la population ordinaire, très dur, sous forme de quartiers de sécurité où ils ne puissent avoir aucune communication avec l'extérieur, parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé.
Voilà, il est un petit peu dépassé, le procureur de la République de Marseille.
Mais donc ça fait un peu froid dans le dos, là, ce qu'on vient d'entendre. En fait, ce qu'il propose, c'est de rétablir les QHS, quoi.
Ouais.
Tout, au calmito, quoi.
Pour des gens qui, comme il le dit lui-même, c'est pour des gens en détention provisoire, ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est...
Et puis on passera sur les propos du ministre de la Justice. Oui. Ces gens-là, la prison à l'intérieur, c'est pareil qu'à l'extérieur... C'est juste l'absence de femmes. Bon, bref, donc on parle frontalement de pourquoi pas supprimer le droit pour les avocats de contester la régularité de la procédure. Et très inquiétant, ces propositions qui n'ont jamais été totalement abandonnées. Et puis les QHS, ils existent par d'autres billets, mais là on parle sans phare quoi, de rétablir une incarcération spécifique pour ces gens-là, très dur, c'est lui qui le dit, sans communication à l'extérieur, des prisons de haute sécurité. J'imagine qu'il fait directement allusion aux prisons sécuritaires américaines.
Ouais, au Supermax.
Ouais. Donc, voilà, des Supermax à la française. Il faut dire que les États-Unis ont brillé pas mal dans leur guerre à la drogue. Ouais. Donc on voit que finalement, on est toujours comme ça, avec 20 ans de retard, en train d'essayer d'employer des recettes dégueulasses des Américains. Non mais c'est stupéfiant quand même.
D'ailleurs, on vous rappelle qu'on avait fait deux émissions, une sur la guerre à la drogue aux États-Unis, une sur la guerre à la drogue en France, que vous pouvez réécouter sur le site de Canal Sud ou sur notre compte Spotify, parce que nous avons un compte Spotify. Suivez-nous sur Spotify.
Exactement. Alors, bon, les événements se sont un petit peu accélérés, il y a eu ces déclarations, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, tout ce beau monde s'est déplacé à Marseille pour lancer les nouvelles opérations PlaceNet, C'est PlaceNet XXL. Voilà. Ça, c'est le 16 et le 18 mars. Du coup, c'était l'occasion hein, de communiquer pas mal sur le sujet. On vous livre un extrait de la communication du président.
Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui, pendant des semaines, vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs.
Voilà la communication élyséenne. Bon, alors, c'est pas exactement ça. Là, pour le coup, peut-être on a fait un montage. Mais. Bref, sinon, dealer, merde au dealer, hein, qu'on avait déjà eu l'occasion de mettre. Je crois que.
Ça doit être intemporel.
Oui, on n'avait pas pu l'écouter jusqu'au bout. Là, on en a quand même une minute 15. Je pense que c'est ce qu'il faut. Mais vraiment à consommer avec modération. Toujours est-il que voilà. Et depuis cette opération PlaceNet XXL menée à Marseille, alors comme disait Macron, enfin hein, c'est un déploiement considérable de forces répressives. C'est 900 à 1000 forces de sécurité intérieure, comme ils disent, à la Castellane et dans d'autres quartiers de Marseille. Et depuis, ça a été Roubaix, ça a été Dijon, ça a été Strasbourg, ça a été Nantes, ça a été Toulouse la semaine dernière. Avec à chaque fois un déploiement considérable de policiers qui restent là plusieurs semaines. Hein. C'est une occupation du quartier. On se rappelle d'ailleurs, hein, c'est des quartiers sont labellisés de reconquête républicaine, hein, ce qu'on avait vu.
Donc à Toulouse, c'était à la Rennerie. Ils sont d'abord déployés place Aval et puis.
Et puis ils y sont toujours. Ouais.
Et avec des médias qui accompagnent.
Alors, mais c'est ça, c'est que bon, les services de l'État communiquent eux-mêmes avec ce clip là qu'on a entendu de la préfecture, mais à chaque fois, sinon, il y a une équipe de télé. Dans toutes les opérations, PlaceNet XXL, il y a même certains policiers que ça a un peu exaspéré parce qu'elles étaient annoncées la veille. C'était peut-être pas hyper malin, mais en fait, oui et non, en fait, dans la mesure où on est vraiment dans la communication. Je crois pas qu'ils puissent considérer très sérieusement que c'est efficace pour s'en prendre à la lutte contre les trafics de stupéfiants. L'idée, c'est vraiment de communiquer. Et pour chaque opération PlaceNet XXL, il y a BFM, il y a CNews, il y a la Dépêche du Midi, Le Républicain Lorrain, etc., etc.
C'est une opération de communication, mais pas que.
Oui, alors, malheureusement, pas que ça. C'est que ce qu'on disait, c'est que ce sont des quartiers qui sont occupés par des compagnies de CRS, par des compagnies de gendarmes mobiles, avec des interventions de la BRI, et qui vont rester sur le quartier et qui vont procéder à des milliers de contrôles.
C'est une forme de pacification urbaine, en fait, parce qu'ils ne s'attaquent pas du tout qu'aux dealers et qu'à la drogue, parce qu'ils vont en profiter pour contrôler à tout va, et c'est ce qu'on a pu voir notamment à la Rennerie.
Ouais, et puis dans les chiffres qui sont donnés, il y a quand même des choses un peu bizarres, hein. C'est que Gérald Darmanin, bon, qui communique tous les 3-4 jours pour dire un petit peu les résultats de ses actions, et ben, alors déjà il dit, ben, par exemple, il y a eu 1300 interpellations et 800 gardes à vue. Et c'est vrai que ça interpelle un peu sans mauvais jeu de mots. On se demande qui sont ces 500 personnes qui ont été interpellées mais pas placées en garde à vue. Enfin, tout ça n'a pas vraiment de sens, à moins qu'ils aient été verbalisés par une amende forfaitaire délictuelle, celle dont on parlait à l'ancienne émission, où en fait ils ont été juste contrôlés et pas interpellés. Bon, en tout cas, c'est des milliers de personnes qui se font contrôler. C'est des gardes à vue mais qui sont pas en fait que des gardes à vue de stup, parce que c'est aussi des contrôles des entreprises locales, d'un kebab place Abana à la Rennerie, avec un redressement de l'URSSAF, une fermeture administrative pour des raisons d'hygiène, des gens embarqués parce qu'ils ont pas de papier. Donc en fait, au-delà de ces histoires de guerre à la drogue, c'est tout un quartier et toute une population qui est visée, et on va rechercher n'importe quelle infraction pour pouvoir montrer qu'ils sont là. Et judiciairement, pour le moment, on n'a aucun retour. Le ministère de la Justice est plutôt discret. C'était il y a 3 semaines. Le seul retour qu'on a, c'est un article du Monde qui a été écrit peu après l'opération faite à Marseille. Il disait, rien de neuf. Comparution immédiate, des prévenus qui guettaient, des petits trafiquants, des guetteurs, tout à fait comme d'habitude. Malheureusement, et pour les gens qui la subissent, c'est pas que de la com, c'est vraiment une pression policière constante sur plusieurs semaines.
Et le timing est par ailleurs assez interpellant, parce que qu'est-ce qu'on a appris cette semaine ou la semaine dernière, j'ai déjà oublié, que l'Allemagne légalisait la consommation de cannabis.
Ouais, c'est ça, depuis tout le début du mois d'avril, alors même qu'il y a les opérations Drogue XXL, Plasnat XXL, de l'autre côté du Rhin, on dépénalise l'usage de cannabis. Donc évidemment on suivra les chiffres parce que il y en aura, sachant aussi que ces déploiements de forces de police et de colossaux sur des temps très courts et des endroits situés à l'approche des Jeux Olympiques aussi, ça montre la capacité comme ça de pouvoir verrouiller des quartiers, parce que ça va être la prochaine échéance sécuritaire majeure qu'il faudra surveiller.
Maintenant, on va peut-être écouter la chronique de Manu, la chronique musicale de Manu.
Exactement.
Et on se retrouve après.
Salut à vous, bienvenue dans la chronique Justice et Musique de Black Mirror. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage de la culture populaire, un juge pas comme les autres, ou sans doute un peu trop comme les autres, qui s'appelle Judge Dredd. C'est une histoire qui va nous faire passer par le cinéma, les comics, la musique, la Jamaïque, les États-Unis, l'Angleterre. Mais on va le prendre dans l'ordre où moi je l'ai découvert, et je l'ai découvert en 1997 dans une chanson de Daddy Naughty, qui était un grand DJ toaster français-parisien qui avait un sound system et qui a sorti un album en 97 qui s'appelait L'Agitateur, sur lequel il y avait une drôle de chanson qui s'appelait Les 10 commandements. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par écouter cette chanson.
Juge des 400 ans, celui pour lequel il n'y a point d'innocent. Accusé, levez-vous, vous allez devoir répondre au chef d'inculpation suivant: trafic et usage illicite de stupéfiants, possession illégale d'armes de guerre, incitation à l'insurrection et désordre sur la voie publique, association de malfaiteurs. Accusé Franck Lestive, qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Alors j'attends.
Je sais pas, votre honneur, c'est pas moi.
Taisez-vous, je ne vous crois pas. Accusé Gaza, dit Kanour, dit aussi le diable de Tasmanie. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations?
Oui, moi je suis coupable à 200%, mais mes amis sont innocents.
Racaille de France et de Navarre, je suis le juge des 400 ans. Et je suis votre pire cauchemar. Je ne donne jet. Ha ha ha.
Je ne donne jet. leur bonheur. Ne pourrions-nous pas reconsidérer le cas de ces quelques jeunes à qui la vie n'a point souri? De ces quelques jeunes dont les pères sont incarcérés dans les mers, pointent tous les jours aux alcooliques anonymes. Pouvons-nous vraiment vouloir à ces quelques jeunes en marge de la société qui les a créés? N'ont-ils pas droit à une deuxième chance? La parole est au procureur. La défense parlait des quelques jeunes en marge de la société, mais elle oublie cet agent des forces de l'ordre agressé dans l'exercice de ses fonctions. Témoin agent Bertrand Mouillard, qu'avez-vous à dire?
Je revenais à Faxia, quand tout le monde se tapait dessus. Ils m'ont agrippé, ils m'ont enlevé ma matraque. Ils m'ont tapé dessus pendant des heures et des heures. Ce sont des dangereux criminels.
Nous ne devons pas nous laisser marcher sur les pieds par quelques jeunes qui ont envie de tout casser. La société a ses lois, et ces jeunes la piétinent sans état d'âme. Je demande pour eux la peine maximale.
J'ai des dangers.
Ici présents sont déclarés coupables de toutes les accusations portées contre eux et devront effectuer une peine de 400 ans incompressible. Ceci pour vous dire que je suis le juge des 400 ans et qu'il n'y a plus d'espoir.
Hein, 400 ans? Non, non, hé, non. Attends, il est dingue. Hé, 400 ans.
Alors comme je le disais, Daddy Naughty c'est un DJ, et un DJ dans la tradition jamaïcaine, c'est pas quelqu'un qui passe des disques, c'est quelqu'un qui les ambiance en rappant ou en toastant dessus. Donc c'est une tradition qui nous vient des années d'abord 50 aux États-Unis. D'ailleurs, les premiers DJ c'était des animateurs de radio, et ça a été repris en Jamaïque dès les années 60, puis après beaucoup dans les années 70. C'est donc des gens qui tiennent en sound system et qui rappent ou toastent sur les rythmes que passe le selecta, ce qu'on appelait le selecta en Jamaïque. Et donc cette chanson s'appelle Les Dix Commandements, c'est que Daddy Naughty nous donne un indice, il connaît ses classiques. Et Les Dix Commandements, en fait, ça renvoie à une chanson d'un immense artiste, l'un des plus importants sans doute de la musique jamaïcaine des années 60, un mec qui s'appelle Prince Buster, qui a beaucoup fait aussi pour que cette musique arrive en Europe, comme on va s'en rendre compte juste après. Et Prince Buster, en 1967, avait sorti une chanson qui s'appelait Les Dix Commandements, un morceau horriblement misogyne qu'on ne va pas écouter. J'ai juste passé le rythme pour vous rendre compte qu'effectivement Daddy Naughty officie sur une relecture de ce rythme.
The Ten Commandments of Man, given to all man through the inspiration of I, Prince Buster. One, thou shalt have no other man but me.
Alors je vous avais prévenu, c'est pas brillant ce qui va se passer dans ce morceau, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Et il a 10 commandements qu'il donne à une femme pour qu'elle ait l'honneur d'être avec lui. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça nous donne une piste pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux juge des 400 ans qui arrive quand même un peu de nulle part dans la culture française. Et en fait, il s'avère que c'est Prince Buster qui est le papa de ce juge des 400 ans qui s'appelle en Jamaïque Judge 400 Years. Et qui s'appelle aussi sous un autre nom, Judge Dredd, qui est donc le nom d'une chanson sortie par Prince Buster en 1967 également, dans laquelle il figure un juge comme ça, pour le moins expéditif, qui envoie des rude boys à l'appel en prison pour des peines de 400 ans, sans même leur laisser l'occasion de se défendre. Et alors 400 ans, évidemment, ça renvoie au temps qu'a duré l'esclavage, en tout cas dans l'imaginaire populaire. Et puis dread, bah en fait en anglais, ça veut dire effrayé. Donc on pourrait traduire ça par le juge de l'effroi, celui qui terrorise tous les rude boys de Kingston et menace de les envoyer pour des siècles et des siècles au placard.
Court is in session. Will you please stand? First, allow me to introduce myself. My name is Judge 100 Years. Some people call me Judge Dredd. Now, I am from Ethiopia. Try hard, you rude boys, for shooting black people. in my court on the beat-top. As I'm vexed, I am the rude boy today. Two-gun test?
Yes, sir.
Rude boy Adolphus checks?
Yes, sir.
Rude boy Emmanuel Zachariah Zaki Pong?
Present.
George Robin Flea?
Present.
Adolphus James?
Yes, sir.
I see where you have been charged. 10 shooting with intent. 5 murder charge. 6 grab and flee charge.
But you are not.
Wash up! Guilty or not guilty?
Not guilty, sir.
I don't care what they say, take 400 years. Stand down. Emmanuel Zachariah Zakipam?
Yes, sir.
You've been charged. 15 charge of shooting intent. 15 murder charge. And I heard that you was the one down there in Sutton Street who tell the judge, rude boys don't care. Well, this is King Street, and my name is Judge Dredd, and I don't care. Now take 400 years.
I don't know why I'm going to say, you know, Your Honor, because...
Hush up, what they trying to do, shoot me too?
No, Your Honor, but I didn't shoot him.
Well, quiet! 400 more years for you.
Alors on se rend compte dans cette grosse farce que effectivement Daddy Naughty s'est contenté quasiment d'adapter la chanson pour la France. Et on pourrait quand même se demander pourquoi Prince Buster sort une chanson pareille, celle d'un juge soi-disant éthiopien qui condamne les Rude Boys à tour de bras comme ça. Alors peut-être un petit retour quand même sur les Rude Boys. Les Rude Boys, c'est en gros les durs à cuire. Et c'est le nom qu'on donnait aux petits voyous, aux habitants des quartiers populaires de Kingston en 1966 en Jamaïque, avec la naissance du rocksteady et donc de la culture Rude Boy qui accompagne cette nouvelle musique plus lente que le ska. Et pourquoi Prince Buster en veut à ces Rude Boys? En fait, il en veut à un certain type de Rude Boys, ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas peur devant la justice. Et en fait, c'est plus une farce qu'autre chose, parce que c'est la réponse à une chanson sortie par un mec qui s'appelait Derrick Morgan, à qui Prince Buster en voulait beaucoup parce qu'il avait changé d'écurie. Avant il était avec lui, et puis il avait changé d'écurie, il était parti avec d'autres, et donc ils ont commencé à se raffronter par chansons interposées. Et ce petit con de Derrick Morgan avait sorti une chanson qui s'appelait Tougher Than Tough, c'est-à-dire plus dur que dur, et qui était sous-titrée Rude is in court, c'est-à-dire les Rude Boys devant la justice, et où il prétendait avoir peur de rien. Et d'ailleurs on l'entend, Prince Buster qui dit: alors j'ai entendu que t'étais celui qui n'avait peur de rien, et bah je te mets 400 ans dans la gueule. On va écouter un petit extrait de la chanson de Derrick Morgan.
Rudies don't fear no boys, Rudies don't fear. Rudies don't fear no boys, Rudies don't fear. Rougher than rough, tougher than tough, strong like lion, we are iron. Rudies are free, yeah boys, Rudies are free.
Donc ça se finit par les Rudies sont libérés dans la chanson de Derrick Morgan. En gros, les Rudies n'ont peur de rien et la justice ne peut rien contre eux. Donc Prince Buster lui répond, eh ben, s'ils étaient devant le juge des 400 ans, c'est-à-dire moi, ils se prendraient des 400 ans d'esclavage. Le truc, c'est que cette chanson est très mal reçue par la plupart des Rude Boys de Kingston, parce qu'ils se demandent pourquoi Prince Buster, un des Rude Boys originels, commence à vouloir appliquer une justice expéditive comme ça. Et donc ça fait quand même du bordel et ça joue un peu sur la réputation de Prince Buster, ça lui donne plutôt une mauvaise réputation. Alors il se demande comment répondre, et répond par une chanson qui s'appelle The Appeal, c'est-à-dire l'appel, ou The Barrister, c'est-à-dire l'avocat, et où en fait il en rajoute une couche, il fait venir un avocat pour défendre ses Rude Boys, et il enferme l'avocat lui-même à 400 ans de prison. Et il y a quelques semaines comme ça, où décidément les Rude Boys comprennent pas ce que Prince Buster leur veut, si bien qu'il finit par une grosse grosse blague qui s'appelle Judge Dredd Dance, et où Judge Dredd en fait invite un pote à lui à jouer du trombone pour que tout le monde soit libéré et que tout le monde danse tous ensemble.
And for celebration, I brought for them today a freedom man by the name of Brother Rico. Now play Madison harder, play.
L'histoire s'arrête pas tout à fait là, parce que Judge Dredd, ça vous dit sans doute quelque chose, sous les traits de Sylvester Stallone quand même en 1995 dans un film éponyme. Et en fait, comment est-ce qu'on se retrouve avec un personnage qui joue un juge de rue, qui est à la fois juge, juré, bourreau, qui représente une justice encore plus expéditive dans un monde post-apocalyptique? C'est qu'en fait, il y a un musicien de reggae anglais qui va se faire appeler Judge Dredd en reprenant le nom de Prince Buster, parce qu'en fait toute la musique jamaïcaine arrivait à Londres dans les quartiers populaires londoniens, notamment Brixton où a grandi ce fameux Judge Dredd. Puis les Rude Boys, en fait c'est une culture qui va être reprise par les skinheads de Londres qui vont se réapproprier toute la musique de Jamaïque, notamment via le label Troyan, qui était le label qui importait Prince Buster. Et donc quand ce futur Judge Dredd va enregistrer ses premières chansons, le label Troyan va lui suggérer de prendre ce nom Judge Dredd, parce que ça avait quand même eu un certain écho. Et il s'avère que ce mec va être un gros exportateur du reggae anglais. D'ailleurs, c'est le premier blanc qui va obtenir un hit en Jamaïque. Et donc, en 1977, quand les créateurs de Judge Dredd cherchent un blaze pour le nom de leur héros juge, juré, bourreau, officiant dans une ville post-apocalyptique, ils se rappellent de ce blaze. Ils lui changent le A par un D, qui donne donc Judge Dredd avec deux D, histoire d'éviter les conflits de droits. Et donc, ce Judge Dredd vient directement de Jamaïque. Par contre, en Jamaïque, Judge Dredd a cessé d'exister non seulement avec la Judge Dredd Dance de Prince Buster, mais aussi parce que Honey Boy Martin, qui était un autre Rude Boy, a sorti un morceau pour clore le débat qui s'appelait Dredder Than Dredd, c'est-à-dire plus effrayant que l'effrayant, en l'occurrence le Dredd, c'est plus effrayant que le Judge Dredd, dans lequel il condamne ce fameux Judge Dredd à passer 1000 ans en prison pour avoir usurpé l'identité d'un vrai juge. On se quitte avec cette version dont Daddy Naughty reprend le refrain pour sa propre chanson.
Dredder Than Dredd. If anyone try to stop you boys, they will get sick in their head and will end up in the cemetery because they'll be dead.
C'est la fin de notre émission, vous écoutez la fin de Ta Page sur Canal Sud, une émission sur les violences judiciaires. On ne se retrouvera pas en mai pour le coup.
Parce que c'est la fête du travail. Du coup on ne travaille pas du tout du mois de mai. Très radical.
Voilà, et en revanche on sera à nouveau là le deuxième jeudi de juin.
En direct sur Canal Sud 92.2. ou bien en replay sur Canal Sud ou sur Spotify. On a aussi une adresse mail, vous pouvez nous écrire.
Absolument.
C'est tapage_radio@proton.me.
Yeah.
Voilà. Et on se quitte en musique avec notre générique de fin préféré.
Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-do-da,
do do di da di do da di da da di 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 do da do do da di do da do do di da di do da di da da di 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 do da do do da di do da do do di da di do da di da da di 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 do da do do da di da da do do di da di do da.